Bonjour, donc nous souhaitons tout d'abord remercier les organisateurs de ce séminaire pour nous permettre de présenter ce dossier qui aura trait donc à une grande villa fouillée récemment en Picardie sur le tracé du futur canal Seine-Nord Europe. Donc à travers ce dossier, nous allons aborder la question de la présence d'arbres, voire de plantations dans l'enceinte de sanctuaires. Et nous allons essentiellement baser notre développement sur le site de Noyon, mais nous allons également faire appel à deux autres sites de sanctuaires qui ont été donc fouillés à l'occasion des travaux préliminaires au creusement de ce grand canal qui doit relier la Seine à l'Escaut. Ce sont les sites de Moyencourt et de Nesle-Ménil-Saint-Nicaise dans la Somme. Voilà. Donc, à l'occasion de ces trois fouilles, des analyses de restes végétaux ont été pratiquées en association avec les lieux de culte découverts. Et donc, ces analyses ont concerné à la fois les micro-restes sous la forme des pollens, mais aussi les macro-restes végétaux, donc les fruits et les graines, la carpologie, et également les fragments de bois gorgés d'eau et les analyses de charbon de bois, voire les analyses d'insectes retrouvés donc dans les puits associés à ces lieux de culte. Alors la question du végétal dans l'environnement des sanctuaires a interpellé les arc-botanistes à l'occasion de ce colloque qui s'est tenu à Amiens en 2013 à l'initiative de Kai Fechner de l'INRAP et dont la publication est en voie d'achèvement. À l'occasion de ce colloque, donc les organisateurs nous avaient demandé à un collègue arpologue, Julian Witold et moi-même, de réaliser une petite synthèse sur les analyses de macro-restes végétaux associés à des lieux de culte. Et d'emblée, nous avions mis en évidence le peu d'études archéobotaniques réalisées dans ces contextes, puisqu'il y en a moins d'une dizaine à l'échelle de la France. Alors même que les ensembles funéraires sont beaucoup mieux documentés avec des dizaines d'études. On peut néanmoins se réjouir de l'apport de plusieurs fouilles récentes, outre celle donc, du canal que je viens de citer. Récemment, dans l'Oise, ont également été fouillés les sanctuaires de Pont-Saint-Maxence et d'Étrée-Saint-Denis, qui vont également donc, faire l'objet d'analyses archéobotaniques. Alors, le même colloque avait soulevé l'ambiguïté qui s'attachait au terme « environnement », puisqu'il a été compris de manière différente par les communicants. On avait abordé à cette occasion les éléments naturels, en particulier le rôle de l'eau dans le fonctionnement des sanctuaires, souhaite faire référence aux restes végétaux découverts la plupart du temps sous forme carbonisée dans des petites structures correspondant à des épandages et qui pouvaient alors éventuellement être considérés comme des résidus de sacrifice. Mais peu de communications ont abordé le végétal comme élément constitutif même des lieux de culte. Donc à partir des quelques exemples carpologiques étudiés, on pouvait caractériser la constitution de ces petits dépôts correspondant éventuellement à des rejets sacrificiels qui sont en fait sensiblement proches des ensembles funéraires. C'est-à-dire que dans les sites proches du Limès ou avec une forte influence méditerranéenne, on a essentiellement affaire à des assemblages de fruitiers avec beaucoup d'espèces importées exotiques. Alors que quand on s'éloigne un peu plus, on trouve des ensembles essentiellement proches de ceux qu'on voit dans les habitats, mais avec toujours la présence d'espèces exceptionnelles comme le lupin ou la geste qu'on ne rencontre pas dans les habitats. Donc avant de vous présenter les restes végétaux associés à la villa de Noyon, je vais laisser Marjolaine de Mulder, donc la responsable des fouilles de ce site, vous présenter le site.
Donc, la villa de la Marocanard à Noyon a été découverte en 2009, donc, comme l'a dit Véronique, au cours de l'un des diagnostics archéologiques menés par l'INRAP en amont de la construction du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe. Donc, elle est située au sud de la Kiwitas des Viromanduins. Elle est implantée à moins d'un kilomètre au sud-ouest d'une possible voie romaine majeure du réseau d'Agrippa, donc la voie de l'océan qui allait de Milan à Boulogne par Lyon, et de l'agglomération secondaire de Noviomagus, donc Noyon. Dans l'emprise des futurs travaux, ce sont donc 6 hectares de la pars rustica de la villa qui ont été fouillés entre 2011 et 2012. Et donc sur la base des informations fournies par la fouille, la fondation de cette ville-là apparaît assez nettement comme une création ex nihilo des dernières décennies avant notre ère. Donc, la pars rustica de la villa de Noyon donc, appartient donc, à un très riche établissement. Donc, son programme architectural est caractérisé par une partie résidentielle très développée et une partie d'exploitation formée d'une cour bordée de part et d'autre de pavillons de taille et de plan répétitifs, donc, distincts les uns des autres. Ce type en fait la rapproche d'un type de villa qui est bien connu par ailleurs, donc celui des très grandes villées de plans réguliers. Donc ces dimensions sont par ailleurs complètement exceptionnelles puisqu'elles sont évaluées à 12 hectares minimum et donc ça place cet établissement finalement au rang des plus grandes villées connues donc dans ce type-là qui est connu à ce jour dans les provinces septentrionales des Gaules. Donc, bien que déjà gigantesque, la partie fouillée ne représenterait qu'environ le tiers central de l'établissement, puisqu'en fait la pars rusticale devait se développer encore très largement vers l'est, comme l'atteste la découverte de vestiges gallo-romains au début du siècle lors de la construction du canal du Nord. Et à l'ouest, donc la pars urbana, elle est connue par des photographies aériennes, des images satellites et des prospections géophysiques. Et elle couvre, quant à elle, déjà 2 hectares à elle toute seule. Donc la partie résidentielle, que vous... Oh mince, excusez-moi. Ça doit être là, un petit bouton vert. Voilà. Donc la partie résidentielle, ici... est agencée autour d'une cour à plan centré, avec sans doute donc péristyle, et se compose de nombreux bâtiments, dont probablement des salles de réception, une palestre et un balnéaire. Donc ce balnéaire, il est attesté par ailleurs par la découverte à l'ouest au cours d'un autre diagnostic donc, qui a été mené par le service archéologique municipal de la ville de Noyon, d'un aqueduc, donc, par ici. Donc d'un aqueduc qui se dirige très clairement donc, dans l'angle nord-ouest donc, de cette pars urbana. Donc une tour-porche monumentale semble marquer le passage, donc ici, semble marquer le passage donc, entre cour résidentielle et cour agricole. Manifestement, donc, la partie fouillée de cette cour agricole n'était pas celle, excusez-moi, où avaient lieu principalement les activités agropastorales. Donc, j'entends par activité agropastorale le traitement et le stockage, notamment des céréales. Puisqu'à l'exception d'un unique bâtiment lié à la stabulation du bétail et qui est daté donc, du premier état de cet établissement, aucun bâtiment d'exploitation et aucune infrastructure de production agropastorale n'a été découverte sur la pars rustica de cette ville-là. Donc la fouille, loin de révéler les bâtiments agricoles attendus sur la pars rustica, a surtout révélé en fait des habitations qui présentent un équipement d'un standing particulièrement remarquable. Donc également donc, les objets de la vie quotidienne, la vaisselle, les accessoires des costumes et des parures retrouvés dans les dépotoirs domestiques associés montrent aussi un statut très élevé des occupants de cette villa. Ainsi qu'une forte imprégnation à la culture méditerranéenne. Donc, les indices des activités artisanales, voire commerciales, pratiquées sur le site sont très très nombreux. D'ailleurs, à l'instar de plusieurs établissements du même type, la villa de Noyon est manifestement en lien direct avec l'agglomération toute proche de Noyon, dont le rôle économique est clairement tourné vers la production d'objets manufacturés et les échanges. Dans la première moitié et au milieu du premier siècle de notre ère, la quantité des importations, donc de très nombreuses amphores à huile et à vin, avec lesquelles des centaines de litres de vin, des centaines de litres d'huile d'olive, sont attestées pourraient donc également indiquer un rôle redistributeur de l'établissement lors de la mise en place des réseaux commerciaux régionaux. Donc, nous allons maintenant aborder le vif du sujet, si j'ose dire, donc la partie donc, de l'établissement qui correspond à un sanctuaire. Donc, ce sanctuaire se situe à l'ouest de l'aile sud de la parse rusticale de l'établissement. La présence d'un édifice de culte n'est pas du tout rare dans les grands domaines. On l'observe notamment dans d'autres établissements comme celui de Port-sur-Saône en Haute-Saône, de Dieticon en Suisse ou encore à Oberenfelden, également en Suisse. En revanche, la présence dans la parse rusticale de la villa de Noyon de deux temples, puisque je vous parlais du sanctuaire de l'aile sud, mais vous noterez qu'au centre de la cour, donc, il y a également un deuxième temple. Donc, la particularité de la villa de Noyon, c'est que nous avons donc, deux temples qui ont été utilisés au moins un temps simultanément. Et donc, ce fait-là est tout à fait remarquable. Donc, le premier temple dont je vous parlais au début, donc celui de l'aile sud, il est érigé entre 70 et 120 après Jésus-Christ. Donc il se situe, comme je vous l'ai dit, sur le flanc sud de la pars rustica, en lien direct avec la pars urbana. Le second, donc, il s'agit finalement du réaménagement dans le courant du deuxième quart du deuxième siècle, d'un édifice qui à la base était un édifice de plan simple, rectangulaire. Ce réaménagement, je vous l'ai dit, il a eu lieu dans le courant du deuxième quart du deuxième siècle. Donc, au moment de sa fondation, l'aire délimitée par le péribole du sanctuaire, il est scindé en deux espaces distincts par un fossé oblique. Donc, les fossés sont figurés en marron sur le plan que vous avez sous les yeux. Donc, l'espace situé au nord, donc ici, à l'origine, il est dépourvu de construction. Il pouvait être dévolu finalement à la circulation ou au rassemblement. Et l'espace donc, qui est situé au sud, donc ici, il était donc pourvu d'un puits. Donc, voilà, ici. Cette structure, puisqu'en fait, voilà, pour vous expliquer, donc ce plan figure deux états qui se succèdent dans le temps. Donc, il faut surtout regarder pour l'état primitif cette carte-ci, donc avec un puits, donc F5100, dont nous parlerons tout à l'heure. Et au sud-est de ce puits, la fouille a mis en évidence donc une très importante quantité de dépôts dans des vases ou en pleine terre. Et c'est donc dans le courant du deuxième quart du deuxième siècle que le sanctuaire de l'aile sud est réaménagé et que les murs, donc, qui sont ici en jaune, viennent remplacer en fait les fossés. Et c'est à cette occasion-là également que sont construits les deux petits monuments cultuels au milieu du péribole sud, qui pourraient évoquer donc, des bases d'hôtels. Voilà, ils sont construits à ce moment-là. Et parmi donc, les 234 monnaies de l'enclos, donc soit près de la moitié de la série monétaire recueillie sur l'ensemble de la fouille, nombre d'entre elles ont été retrouvées placées sur la tranche, ce qui évoque un mode de dépôt particulier, donc non pas à jactatio, mais par plantation dans le sol. Et cette pratique qui paraît peu courante, est déjà pourtant renseignée par l'exemple d'un autre sanctuaire, le sanctuaire de Paul, de Paul en Côte d'Armor, donc même si ce sanctuaire-là daterait de la période julio-claudienne. Donc on note l'absence totale de monnaies sacrifiées, donc les monnaies qui sont repliées, etc., habituellement rencontrées donc, dans ce genre de contexte, qui garantit en fait leur soustraction à la circulation. Là, on suppose que le fait qu'elles aient été plantées dans le sol garantit déjà cette soustraction. Donc, en dehors des monnaies, il y a plusieurs objets qui ont été découverts, mais qui ne relèvent pas pour autant purement de pratiques religieuses. Il s'agit essentiellement donc, de mobilier personnel, donc des fragments de miroirs, des fibules, des boucles d'oreilles, voilà, ou il y a eu quelques pièces d'équipement de harnachement. Donc, le puits F5100, c'est un puits qui est installé au moyen d'un creusement hein, circulaire de 2,16 m de diamètre. Nous l'avons fouillé donc, jusqu'au fond, soit 5 mètres de profondeur, donc il n'est pas très très profond. De 4 à 5 mètres de profondeur, le puits conservait un double cuvelage en bois de plan quadrangulaire, donc constitué à l'extérieur de madriers chaînés à l'horizontale contre le creusement et à l'intérieur d'un cuvelage de planches. L'espace entre les deux accueillant un épais apport d'argile. Le fond du puits était donc soigneusement étanchéifié. Entre 3 et 4 mètres de profondeur, on observait au contraire une paroi cuvelée circulaire en planches de bois placées verticalement. Et la partie supérieure du parement était occupée par une maçonnerie cylindrique, donc composée de gros blocs de grès non équarris, donc de 15 à 45 cm de diamètre, pris dans une couche très argileuse, hétérogène, voilà, comprenant également de l'argile. Donc c'est l'installation de ce puits, et l'utilisation du puits finalement se traduit par la formation d'un dépôt au fond, où nous avons réalisé donc, les prélèvements pour la carpologie dont Véronique va vous révéler le contenu.
Voilà, donc le fait d'avoir pu fouiller le puits jusqu'au fond a permis d'atteindre les couches qui sont restées en eau en permanence et qui ont donc garanti aux restes végétaux une excellente conservation. Donc les prélèvements à la fois pour les études des pollens et les études de macro-restes, fruits et graines, ont été réalisés donc dans les couches inférieures, dans les couches basales du puits. Et donc il y a eu un prélèvement palynologique qui a révélé des pourcentages extrêmement élevés de pollen de tilleul, qui atteignent plus de 26% de la somme de restes, parmi beaucoup d'autres arbres et arbustes, donc de l'aulne, du saule, du bouleau, du noisetier, toute une série d'espèces. Mais on a également noté la présence d'espèces rares, comme le boui et l'épicéa, sur lesquels je reviendrai parce qu'il faudra discuter de l'indigénat et de la présence de ces espèces à cette époque dans la région. Les prélèvements carpologiques ont été réalisés dans la même couche que les prélèvements palynologiques et dans une seconde autre couche, mais toujours à la base du puits, dans les niveaux humides. Et pour les macro-restes végétaux, donc, on note tout d'abord que pour un contexte humide, on a affaire à un spectre, à une liste d'espèces extrêmement restreinte. Et ce prélèvement est essentiellement, il y a 529 restes qui ont été recueillis. Et 92% de ces restes sont constitués par des fruits de tilleul à grandes feuilles. Donc Tilia platyphyllos, qui présente tous les stades de développement. Donc là, vous avez des fruits matures qui font 2 mm, et puis ici, vous avez des fruits complets d'un centimètre qui ont atteint leur maturité. Mais on n'a pas trouvé les fleurs et les bractéoles donc, qui portent les fruits. On a trouvé uniquement les fruits. Et les autres taxons sont vraiment très rares. Il y avait quelques éléments de fruitiers sauvages et quelques plantes sauvages herbacées. Alors, comparé à d'autres séquences de puits, celle de Noyon, qui est située ici, elle est apparue d'emblée complètement atypique. En effet, vous avez toute une série d'exemples de puits qui ont été fouillés en contexte domestique, sachant qu'un puits va, à partir du moment où sa fonction primaire d'accès à l'eau est abandonnée, va souvent être réutilisé comme dépotoir et on va y déverser toute une série de déchets. En contexte domestique, il y a deux grands cas de figure qui se présentent et je n'ai pas multiplié les exemples parce qu'ils sont très similaires à ce qu'on voit ici. Donc, soit on a affaire à des puits qui sont situés vraiment au centre des zones habitées, et l'occupation est encore active autour de ces puits quand ils sont réutilisés comme des potoirs. Et dans ce cas, on a affaire à des remplissages qui sont essentiellement constitués de pépins et de noyaux de fruitiers. Donc, quand on tamise le sédiment issu de ces puits, voilà ce à quoi on a affaire, une espèce de marmelade constituée de noyaux de fruits, sachant que les fruitiers se conservent extrêmement bien en milieu humide, alors que des céréales, on va retrouver essentiellement les enveloppes qui témoignent du traitement de stock de céréales sur les sites. Donc, c'est le cas, par exemple, ici, des puits qui se trouvaient au centre de la cour de la villa de Touffréville. Vous avez énormément de restes de céréales, mais qui correspondent uniquement aux enveloppes qui témoignent donc du battage de ces céréales. Quand les puits sont un petit peu plus excentrés ou quand l'occupation n'est plus active autour d'eux, on va avoir affaire à ce genre de séquence où on a essentiellement affaire à des plantes herbacées sauvages, et parmi celles-ci vont dominer ce qu'on appelle les rudérales, c'est-à-dire les plantes qui sont caractéristiques des terrains vagues, des anciens potagers, des anciennes cultures, et qui témoignent simplement d'espaces à l'abandon qui ne sont plus entretenus. Par contre, dans les quelques séquences de sanctuaires, donc les puits associés à ces sanctuaires conservant des niveaux en eau, et ce sont les seules séquences dont nous disposons actuellement, on voit tout de suite que ces séquences se démarquent des autres par une composante particulière, qui est celle des arbres non fruitiers. Donc, c'est le cas à Noyon, mais aussi sur les deux autres sanctuaires fouillés donc sur le tracé du canal Seine-Nord-Europe et également à Entrain-sur-Nohain, en Bourgogne, la séquence de Ménestreau qui a été étudiée par Julian Whitold. Donc, des séquences qui se démarquent par la présence des arbres. Et il faut remarquer que le tilleul à la grande feuille constitue une des espèces dominantes dans toutes ces séquences. Alors, d'autres arbres et arbustes sont fréquemment présents et ces quatre espèces représentent celles qui sont le plus souvent attestées. Donc, c'est le merisier, prunellier, merisier, sureau noir et aubépine, donc outre le tilleul. Ainsi, annelles dans les deux puits associés au temple à Galerie, datés du 2e-3e siècle, ont été recueillies de nombreuses semences de sureau noir associées à des noyaux de merise, à des fleurs, des bractéoles, des fruits matures de tilleul à grande feuille, à des graines et feuilles de buis, à des aiguilles et cônes d'épicéa et à des ex-voto en bois d'épicéa. À moyen cours, donc l'autre sanctuaire fouillé sur le tracé du canal Seine-Nord-Europe, dominait l'aubépine et le merisier. Il n'y a pas eu d'étude palynologique. Par contre, il y a eu une étude entomologique, donc des restes d'insectes, qui montraient qu'il y avait à proximité du puits un espace boisé. Et enfin, l'assemblage carpologique de Ménestreau, donc dans le puits proche de l'entrée du Grand Temple, comprenait plusieurs centaines de fruits de merisier, de sureau noir, de prunelier, ainsi que 7036 fruits de tilleul, mais aussi des espèces rares comme l'if, qui n'est plus spontané en Bourgogne. Alors, pour revenir aux résultats palynologiques associés au puits de Noyon, donc, nous avons déjà souligné l'importance des arbres. Les pourcentages de tilleul, donc plus de 26%, sont anormalement élevés pour une espèce dont le pollen est dispersé par les insectes, c'est-à-dire qui est dispersé sur des très courtes distances. De plus, vu la manière dont fonctionne un puits et vu l'importance de ces pourcentages de pollen de tilleul, une espèce qui, à l'époque, est complètement devenue secondaire dans les cortèges arborés, on ne peut pas considérer que ce spectre reflète la pluie pollinique naturelle de la végétation qui entourait la structure. Donc, ces forts pourcentages sont liés à des apports artificiels. Soit ils impliquent le rejet de branches portant des fleurs dans le puits, soit des apports liés au fait que des fleurs seraient présentes dans l'environnement proche du puits, donc dans, il y aurait au sol des fleurs de tilleul qui seraient alors arrivées dans le puits du fait des ruissellements ou simplement par gravité. Donc dans ce cas-là, ça signifierait que les arbres sont localisés à proximité du puits. Mais en aucun cas, ce spectre-ci ne peut être mis en relation avec un apport naturel résultant de la végétation. Alors, sur le même site de Noyon, donc vous avez ici la séquence liée donc au puits associé au lieu de culte. Et vous avez ici une séquence qui résulte d'un puits qui se trouve au centre de l'habitat. Et on voit tout de suite que les composantes sont différentes. On trouve dans ce puits beaucoup plus de marqueurs de la présence de l'homme, notamment des céréales, mais aussi des ruderales, donc les plantes liées aux espaces fortement investis par l'homme, et aussi les échos d'une végétation arborée, mais qui est surtout constituée d'espèces liées aux espaces dénudés, donc des essences héliophiles qui ont besoin de lumière pour se développer. En revanche, la séquence associée au sanctuaire de Noyon est très proche des séquences palynologiques étudiées pour le sanctuaire de Nesle-Ménil-Saint-Nicaise. Et on retrouve de très forts pourcentages de pollen de tilleul. Et là, ils atteignent même plus de 50%. On est à 54 et quelques pourcents. Et des pourcentages de buis tout à fait remarquables, atypiques, là aussi, avec plus de 10%. Donc, encore une fois, ces taux records ne peuvent en aucun cas être mis en relation avec le reflet d'une végétation naturelle et la pluie pollinique. Donc, on part sur deux hypothèses. Soit on a affaire à des rejets anthropiques, donc le rejet de branchages dans les puits. Mais dans ce cas, il faut tout de même souligner que cela pose problème puisque les espèces présentes, notamment le tilleul, le buis et l'épicéa, ne peuvent pas faire partie des mêmes formations végétales. Donc, s'il y a eu prélèvement de rameaux et rejet dans le puits, ça veut dire que ces prélèvements ont été effectués dans plusieurs types de boisements. Et ils concernent des espèces rares, dont l'indigénat n'est pas du tout certain. De plus, dans la mesure où il y a à la fois les fleurs et les fruits de tilleul, les fleurs sont attestées par la palynologie et les fruits par la carpologie, et dans la mesure où la saison de floraison du tilleul est très courte, cela implique que ces prélèvements auraient été faits à des saisons différentes pour pouvoir à la fois recueillir des fleurs et des fruits. Par ailleurs, au sein des petits branchages qui ont été recueillis dans le puits, qui ont fait l'objet de l'étude xylologique, le tilleul n'est pas présent. Et il n'est pas attesté non plus dans les charbons de bois recueillis dans le puits. Donc si on part sur l'idée qu'il y a eu plutôt apport naturel, donc ça implique la présence d'arbres aux alentours du puits, et donc les fleurs et les fruits seraient tombés au sol et ensuite, à partir de ce lit de macroresse, les ruissellements auraient fait que ces espèces ont abouti dans le puits. À nouveau, donc, il y a la présence de ces arbres rares qui posent la question de savoir si on a affaire à une végétation spontanée ou si ces arbres ne sont pas là par hasard et auraient donc été plantés. Alors, quelle que soit l'hypothèse, la question donc, de ces espèces rares pose le problème de savoir comment elles sont présentes et si elles étaient présentes dans l'environnement local. Alors, pour ce qui est du tilleul, c'est tout à fait possible. C'est vrai que la tillier constituait les végétations dominantes au néolithique, mais à la Juffaire puis à l'époque romaine, ce sont des espèces qui sont devenues très secondaires dans les cortèges locaux, notamment le cortège à la chaînée pubescente, mais elles peuvent encore y être présentes. Toutefois, donc, le bois de tilleul n'est pas présent dans le puits, et par ailleurs, ce sont des espèces qui n'apparaissent jamais dans les contextes domestiques. On en a un seul exemple, celui de la villa de l'Arpent-Ferret à Cervon, donc en Seine-et-Marne, mais c'est le seul exemple où des fruits de tilleul ont été retrouvés en contexte domestique. Pour le buis, c'est beaucoup plus problématique déjà, parce que l'indigénat de l'espèce est âprement débattu pour le nord de la France. Donc il y a eu notamment des travaux de Guillaume de Coq, qui est phytosociologue sur la forêt de Compiègne et ses environs, qui montre que le buis est présent dans les sites d'anciens châteaux. Donc c'est une espèce qui a été massivement plantée dans les parcs de châteaux, mais qui ne serait peut-être pas présente avant l'époque médiévale. C'est le même constat qui est fait par deux botanistes qui ont établi récemment un atlas de la flore du bassin parisien, donc Philippe Josin et Olivier Naurot. C'est un atlas qui est paru en 2011. Et ils indiquent le buis comme naturalisée, c'est-à-dire une espèce qui a été plantée puis qui est apparue dans la végétation naturelle, ou archéophyte, c'est-à-dire une espèce étrangère introduite dans la zone où on la trouve. Et ils disent peut-être indigène dans certains endroits. Les mentions archéobotaniques de buis, on en a quelques-unes. Donc on a parfois trouvé des feuilles ou des fruits de buis, mais elles sont toutes datées de la fin de l'époque romaine, donc des 3e et 4e siècles. Et elles sont très rares, on en a uniquement deux mentions. Une dans l'Oise à Longueuil-Sainte-Marie, où on a deux feuilles et une graine, et une mention dans l'agglomération de Châteaubleau, pour un contexte du 4e siècle, où on a à la fois des feuilles et des petits fragments de bois. Dans tous les cas, c'est une espèce de demi-ombre qui se rencontre dans le sous-bois des chênaies pubescentes. Mais donc, on n'en aurait pas trace, sauf peut-être une mention palynologique datée du 4e siècle avant, mais on n'en aurait pas trace sinon avant la fin de l'époque romaine. Donc, c'est une espèce qui, si elle est déjà présente, est de toute façon extrêmement rare dans la végétation et y est peut-être présente du fait de l'homme. Même problème avec l'épicéa, dont il n'existe aucune mention sous forme de charbon de bois en France du Nord. On en a quelques mentions palynologiques dans la vallée de la Velle, notamment à Reims. Mais le problème des pollens d'épicéa, c'est qu'ils sont munis de petits ballonnets, comme ceux du pin, et donc ils peuvent flotter très longtemps dans l'air avant de se redéposer. Donc il peut s'agir d'apports lointains. Par contre, on en a quelques mentions, là, sous forme de macrorestes, c'est-à-dire d'aiguilles et de cônes en Belgique, dans quatre sites. Donc, on en a, je vais reprendre mon papier pour vous donner les sites. Donc, il y en a deux mentions qui concernent des villas, donc celle de Majerois à Abbé et celle de Champion à Amois, et deux mentions qui concernent des agglomérations à Merbe et Arlon. Et donc, Marie de Remaux en a identifié dans le sanctuaire de Nesle-Ménil-Saint-Nicaise sous forme de cône, donc dans le puits associé au temple de ce sanctuaire qui correspond donc à un des sites de comparaison. Alors, sachant qu'il y en a également donc peut-être des mentions palynologiques dans la vallée de la Velle, il pouvait peut-être exister une petite zone de l'épicéa à cette époque. Il faut savoir qu'actuellement, c'est une espèce montagnarde qui est uniquement présente spontanément dans le Jura et dans les Alpes. Ailleurs, elle a été plantée par l'homme, elle a été implantée de manière artificielle. À l'époque romaine, on ne sait pas ce qu'il en est de cette espèce, ça pose une question écologique. Il en existait donc peut-être une petite zone centrée sur les Ardennes, mais ce n'est pas certain. Donc, si on reprend ces constats, on a affaire donc à des espèces qui sont extrêmement rares et dont on ne sait pas si elles étaient vraiment présentes dans la végétation à l'époque autour du sanctuaire. Donc, la première hypothèse supposerait qu'on est allé dans différents boisements à différentes saisons prélever des éléments végétaux, mais sans le bois, et qu'on est allé chercher donc ces espèces rares dont on n'est même pas certain qu'elles étaient présentes sur place. La seconde hypothèse, celle d'une présence des arbres, dans la mesure où, à nouveau, on ne peut pas avoir affaire à, sous la forme d'un boisement spontané, naturel, à l'ensemble de ces espèces, cela impliquerait que les arbres ont été plantés et que ces espèces rares sont là du fait de l'homme. Alors, cette hypothèse-là apparaît comme la plus vraisemblable dans l'état actuel des données, surtout vis-à-vis donc de l'écologie de ces espèces rares. Mais si on part sur cette hypothèse, on est dans tous les cas incapable de dire quelle pouvait être la physionomie de ce boisement. Ceci dit, il ne peut pas s'agir d'arbres isolés parce que vous avez vu la liste d'espèces mise en évidence par la palynologie est très longue. Il y a énormément d'arbres et d'arbustes. Et donc, si on les associe, on a certainement affaire à quelque chose qui devait ressembler à un petit boisement, mais on ne peut pas en restituer la physionomie. Après, la question subsidiaire, c'est évidemment de savoir quel statut attribuer à ces arbres. Il y a donc probablement effectivement un boisement artificiel installé autour de ce puits, mais quel est le caractère symbolique ou sacré de ces arbres ? Comme Marjolaine vous l'a présenté, il y a toutefois des bons éléments pour aller dans le sens d'un bois sacré, puisque on est vraiment à l'intérieur de l'espace cultuel, dans la parcelle qui jouxte celle où a été installé un temple. Il y a donc ce dépôt de monnaie qui indique la pratique d'un rite. Et un petit peu postérieur donc, au puits, il y a l'installation de ces petits édicules qui évoquent des bases d'hôtels. Alors, quelques éléments supplémentaires. J'ai fait l'étude des restes végétaux. Je ne suis pas du tout une spécialiste des textes associés à la question. Et donc, dans la publication de l'article, nous avons fait appel à notre collègue William Van Andringa, qui est historien qui est archéologue et historien de la période romaine à l'Université de Lille, pour discuter de la réalité des bois sacrés dans les textes. Et des discussions que nous avons eues, moi j'avais retenu quelques grands points. Tout d'abord que ces bois sacrés sont évoqués de manière universelle, ils sont omniprésents dans la poésie, mais pas seulement. Ils constituent une réalité sinon banale, du moins bien connue dans la littérature antique, et ils font partie donc de la nomenclature des lieux de culte dans l'Antiquité, au même titre que d'autres installations. Les arbres ne sont pas en eux-mêmes divinisés, mais un lieu planté d'arbres ou un boisement naturel peuvent constituer dans certains cas la résidence d'une divinité, au même titre qu'un temple. Et on a un peu l'impression que c'est la situation qu'on a sur le site de Noyon. Il y a une parcelle dans laquelle a été érigé un temple, et dans la parcelle à côté, la résidence en quelque sorte de la divinité serait constituée donc par ces arbres. Ces bois sacrés, ils peuvent être d'origine naturelle, spontanée, ou ils peuvent être aménagés, plantés par l'homme. Donc à Noyon, ce serait plutôt le cas du fait de la présence de ces arbres rares et du tilleul qu'on ne rencontre pas par ailleurs en contexte domestique. Ces bois, ils peuvent être entretenus ou pas, mais dans tous les cas, ce sont des lieux donc réservés à la divinité où ne pénètre pas le commun des mortels et où un culte se déroule, mais qui est réservé aux officiants. Par ailleurs, il existe des exemples de bois sacrés créés et maintenus par des particuliers, et donc ça pourrait être tout à fait le cas pour les propriétaires de cette grande ville-là. Les sources relatives à la Gaule, elles sont très peu nombreuses. Elles concernent essentiellement donc la région de Marseille. On en a peu d'exemples. On en a aussi peu d'exemples archéologiques. La question avait été soulevée néanmoins pour l'agglomération d'Oudenburg, Pissheim-Kunheim, dans laquelle il y a à la fois un camp militaire associé donc à une agglomération civile et à une zone de culte pour laquelle donc les deux auteurs qui ont publié les résultats archéologiques liés à cette zone cultuelle proposaient de restituer à partir de Chablis et d'indices polyniques l'existence d'un bois d'orme dans l'enceinte de ce sanctuaire. Mais comme vous l'aurez compris, on en est vraiment au début des observations archébotaniques relatives à ce type de contexte. Il faut encore effectuer un vrai travail de collecte et de description des indices, des données, pour pouvoir progresser dans la restitution des faits archéologiques. Certaines pistes pourraient être le fait de s'intéresser de manière un peu plus serrée à des structures comme les chablis, qui est souvent négligée. Ceci dit, ce sont des structures qu'il faut bien caractériser pour les distinguer d'autres anomalies qui peuvent être dues au gel ou à d'autres phénomènes. Et il faut aussi surtout bien les dater, parce qu'il y a beaucoup de chablis qui sont en fait modernes ou contemporains. Donc il faut arriver à dater ces structures, par exemple par les petits fragments de charbon de bois qu'on peut trouver associés à leur emplacement. Il faut aussi penser à les relever quand on étudie ce type de contexte. Et par ailleurs, les structures qui apparaissent les plus intéressantes sont les puits, puisque la présence de l'eau garantit donc une excellente conservation de tous les types de restes végétaux, mais aussi des restes d'insectes qui peuvent indiquer la présence d'espaces boisés. Donc il faut faire l'effort de fouiller ces puits, parfois en faisant appel à des équipes de puisatiers pour des raisons de sécurité. Mais ces contextes donne l'occasion de faire des études xylologiques, palynologiques, carpologiques, entomologiques et de croiser tous ces indices de manière à vraiment avoir une convergence de données qui permettent alors de développer un discours. Voilà, donc quelques fouilles récentes vont nous offrir de nouveaux dossiers, comme celle de Pont-Saint-Maxence, où le puits a également été prélevé. Mais on en est encore vraiment au début d'une évidence. Mais au regard de ces quelques premiers indices, on peut néanmoins raisonnablement se poser la question de la présence d'espaces qui ne soient pas des espaces construits, et néanmoins des espaces de culte. Voilà, je vous remercie.